Donc nous en venons maintenant au rapport numéro 2, le DOB, qui est présenté par l'adjoint aux finances Jean-Claude Giroux. Tu as la parole, Jean-Claude.
Alors, en ouverture, on signalera que ce débat d'orientation budgétaire a une particularité. En principe, c'est le dernier de la mandature. Les deux premières pages vous ont permis de prendre connaissance du contexte dans lequel les collectivités seront amenées à prendre leurs décisions. En résumé, de façon plus aiguë que les années précédentes, c'est l'incertitude qui domine, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine fiscal et surtout dans le domaine social. Malgré cela, dans ce climat morose, notre objectif reste le même, à savoir garantir aux Boétiens un niveau de services et d'équipements répondant à leurs besoins, ceci sans augmenter la dette et les taux d'imposition. Alors, d'où part-on et quelle est la situation économique de notre commune? On peut se diriger vers la page 2. Alors donc, sur ce premier graphique donne un aperçu de l'évolution comparée des deux principales masses financières, c'est-à-dire les recettes et dépenses réelles de fonctionnement. On peut d'autre part visualiser notre capacité d'investissement et de désendettement, à savoir l'épargne brute, qui est représenté ici par l'écart entre les deux courbes. On voit que sur la durée subsiste un discret effet de ciseau causé principalement par la diminution progressive de la DGF depuis 2014. Toutefois, toute chose étant égale par ailleurs, la stabilisation annoncée du montant de la DGF en 2019 devrait permettre de freiner, voire stopper la baisse des recettes, ce qui à terme permettrait de préserver notre niveau d'épargne et donc notre capacité d'investissement. Autrement dit, on se dirigerait vers une évolution en parallèle des deux courbes. Ensuite, le tableau suivant, donc page 3. Le tableau suivant permet d'apprécier dans le détail l'évolution des dépenses et recettes réelles, et par différence sur la ligne 7, l'épargne brute qui en résulte. En définitive, dans ce tableau, on retiendra en point d'orgue notre taux d'épargne sur la ligne 8. Bien qu'en 2017, il soit à la baisse, il reste cependant très supérieur à celui de la strate que vous avez donc sur la ligne 9. Nous continuons donc à générer une capacité d'investissement élevée. Le tableau suivant donne l'évolution de la DGF. Alors donc, c'est une baisse, la baisse de la DGF, vous le savez, fait suite au désengagement de l'État à partir de 2014. Alors ce qu'il faut noter, c'est qu'en 2013, nous avions une DGF qui s'élevait à 510 657 euros. Et en 2019, notre DGF donc, tomberait à 65 000 euros. Alors, sans cette baisse, si nous étions restés sur la base de 2013, nous aurions perçu un cumul de 3 064 000 euros sur la période 2014-2019, alors qu'en réalité, nous ne percevrons que 1 222 000 euros, soit un manque à gagner de 1 840 000 euros en termes de capacité d'investissement. Alors, pour fixer les idées, ce manque à gagner équivaut à une année de dépenses d'équipement évaporée dans l'intervalle. Alors, malgré cela, sur la période, ceci ne nous a pas empêché de conserver une politique d'investissement dynamique grâce à une épargne restée conséquente. Alors, pour en finir avec la DGF, le fait positif est qu'il n'y aura pas de baisse entre 2018 et 2019. Qu'en sera-t-il au-delà? À ce jour, on n'a pas la réponse. Donc, on peut passer au poids financier de l'agglo. En suivant. Alors, dans la deuxième colonne du premier tableau, on trouve l'attribution de compensation. Le cas échéant, celle-ci varie à la baisse en fonction du montant des charges liées aux compétences transférées à l'agglo. Avec un montant de 1 261 685 euros stable depuis 2016, l'attribution de compensation est une recette pérenne conséquente. Pour fixer les idées, il faut savoir que celle de Boé est la plus élevée après celle d'Agen. Alors si cette attribution est garantie dans le temps, ce qui est sécurisant, il n'en demeure pas moins que son montant s'érode au fil des ans sous l'effet de l'inflation. Sur le mandat, l'attribution de compensation cumulée perçue par Bouygues s'élève à près de 7 500 000 euros, ce qui représente plus de la moitié de notre budget annuel. Dans le même tableau, donc dans la troisième colonne, on trouve la DSC, c'est-à-dire la dotation de solidarité communautaire. Alors, c'est une dotation qui résulte de la volonté de l'agglo d'apporter une aide aux communes. Contrairement à l'attribution de compensation, cette dotation n'est pas une ressource pérenne, car l'agglo peut toujours la remettre en question. Depuis le début du mandat, Bouygues a pu bénéficier d'une dotation cumulée de près de 2 091 000 euros. Ce coup de pouce de l'agglo n'est donc pas négligeable. À ce jour, nous ne connaissons pas encore le montant 2019, mais on peut raisonnablement penser qu'il sera comparable à celui des années précédentes. On peut passer à la page 4. Page 4, donc, on terminera cette rubrique agglo avec le Fonds de solidarité territoriale, donc le FST. Alors, rappelons que le FST est un concours financier non obligatoire de l'agglo, venant soutenir les projets des communes dès lors que ceux-ci s'inscrivent dans des thématiques déterminées, avec un financement allant de 20 à 50% sur le projet et dans la limite d'un droit de tirage annuel fixé pour chaque commune. Compte tenu du dynamisme de notre politique d'investissement, nous avons, dès 2018, déjà consommé la totalité de notre enveloppe, alors que celle-ci devait courir jusqu'en 2019. De fait, nous ne pourrons donc pas solliciter le FST en 2019. Il faudra donc attendre pour cela le prochain mandat, après rechargement de notre droit de tirage. Au final, entre le FST, l'attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire, la participation financière de l'agglo sur la durée du mandat devrait s'élever au total à 10 500 000 euros. Ce n'est pas rien, mais c'est aussi un juste retour des choses, dans la mesure où l'agglo collecte sur notre territoire un produit fiscal nettement supérieur, dont elle ne nous redistribue qu'une partie. Nous ne vivons donc pas au crochet de l'agglo. Le point suivant concerne l'endettement. L'amour est dans le prêt, dixit le banquier. Oui, mais à condition d'être fin prêt. Le problème avec la dette, c'est qu'elle vient rogner mécaniquement l'épargne et donc la capacité d'investissement, ce qui peut pousser à s'endetter à nouveau afin de continuer à investir. C'est le serpent qui se mord la queue et qui s'inocule son propre venin. Le contrepoison est connu, mais il n'est pas dénué d'effets secondaires douloureux. C'est l'augmentation des impôts. S'endetter, c'est quelque part accepter de payer pour avoir de l'argent. Alors qu'en est-il à Bouygues ? Alors, dans le tableau d'extinction de la dette, que vous avez sous les yeux, donc, 2027 marque un tournant, car c'est la dernière année pour laquelle nous aurons des intérêts à payer. Au-delà, jusqu'en 2033, notre endettement ne coûtera rien, mais avant, sur la période 2019-2027, nous devrons toutefois nous acquitter d'un total de 62 500 euros d'intérêt, ce qui est très inférieur à ce que nous aurions dû payer pour une seule année si notre ratio de frais financiers était le même que celui de la strate. On est nettement en dessous de la strate sur les frais financiers. Alors aujourd'hui, notre politique d'endettement a donc un impact peu significatif sur notre épargne. Alors toutefois, hormis l'économie des intérêts, le désendettement pour le désendettement n'est pas une fin en soi. L'objectif est de ramener notre capacité d'emprunt à son maximum pour être en mesure, dans l'avenir, d'affronter des projets d'importance comme par exemple celui de Marot. Autrement dit, moins nous serons endettés, plus facilement on nous prêtera des montants conséquents. Page 5, le tableau suivant va nous donner des informations sur la structure de l'endettement. Alors, dans ce tableau, on retrouve notamment les emprunts qui ne coûtent rien, à savoir les prêts à taux zéro de la CAF et de la CARSAT, qui concernent l'accueil de loisirs et la salle intergénérationnelle. Au passage, on signalera, et c'est nouveau, que la CARSAT est venue contrôler la bonne utilisation des fonds qui se révélaient en tout point conformes à ce qui était attendu. Autrement dit, on nous fait des cadeaux avec des emprunts sans intérêt, mais on vient quand même voir ce qu'il en est. Le troisième tableau de cette rubrique concerne le désendettement, la capacité de désendettement. Alors, il répond à la question suivante. Bouygues est-elle une commune solvable ? Autrement dit, combien d'années faudrait-il à Bouygues pour rembourser totalement sa dette si elle mobilise pour cela la totalité de son épargne brute ? En 2017, avec l'épargne du moment, on voit qu'il suffisait de 0,58 ans, soit 7 mois, pour se désendetter totalement, ce qui est très largement inférieur au ratio prudentiel fixant entre 9 et 11 ans le seuil critique à ne pas dépasser. La solvabilité de Bouygues est donc excellente, ce qui est un point fort vis-à-vis des banques s'il fallait négocier de nouveaux emprunts. Alors, sous réserve que notre épargne brute de 2018 et 2019 se maintienne au même niveau qu'en 2017, notre ratio devrait encore s'améliorer compte tenu du désendettement qui continuera à courir. Passons maintenant aux orientations fiscales. Alors, donc, comme annoncé à plusieurs reprises, aucune augmentation des taux communaux n'interviendra d'ici la fin du mandat. On les rappelle ici pour mémoire, hein, 9,47 pour la TH, 28,96 pour le foncier bâti, 115,22 pour le foncier non bâti. Alors, en fiscalité, le point central reste la taxe d'habitation, qui devrait connaître à nouveau une baisse de 35% en 2019 pour les contribuables éligibles. Alors, contrairement à la crainte exprimée par certains maires, la perte du produit fiscal due à la première baisse en 2018 a bien été compensée par l'État. Ce qui, toutefois, n'a pas empêché un certain nombre de communes d'augmenter leur taux. Enfin, ça. Alors, dans le scénario retenu, la revalorisation des bases serait de 1,5%, la variation physique des bases serait de 0,5% pour la TH, et 0,80% pour le foncier bâti et une stagnation pour le foncier non bâti. Dans ce scénario, le supplément de produit fiscal attendu serait de 60 000 euros. Alors, on peut passer maintenant à l'évolution des charges. Donc, page 6, donc, pour les charges à caractère général, l'objectif pour 2017 reste le même, à savoir les garder sous contrôle. Alors, si l'évolution d'une partie des charges à caractère général est relativement prévisible, l'autre est sensible à la conjoncture et à notre politique d'investissement. Alors, l'évolution des charges à caractère général n'est donc pas linéaire, avec de plus des écarts à la moyenne, parfois significatifs, ce qui explique l'allure en dents de scie de la courbe du ratio par habitant. Alors, après être repassé par un maximum en 2017, les informations dont nous disposons aujourd'hui, bien que non définitives, puisque le compte administratif n'est pas définitivement arrêté, bien, ces informations nous permettent toutefois d'estimer raisonnablement que le ratio 2018 pourrait redescendre au niveau de 2015. Donc, on peut imaginer, en regardant la courbe, ce que ça peut donner. Alors, il faudra cependant attendre le compte administratif pour le vérifier formellement, donc. Alors, au passage, on peut aussi remercier les services pour les efforts, pour leurs efforts dans la recherche d'économies à réaliser. Après les charges à caractère général, on va donc aborder les charges de personnel qui représentent la plus grosse dépense de fonctionnement. À ce jour, leur montant définitif pour 2018 est connu. L'allure en plateau de la courbe du ratio par habitant évoque nettement une stagnation, voire même une régression dans la mesure où le ratio 2018 rejoint celui de 2014. Toute chose étant égale par ailleurs, l'objectif pour 2019 serait de rester dans cette tendance. On peut donc continuer sur l'investissement. Alors, pour mémoire, on retrouve ici l'historique des montants des dépenses d'équipement depuis 2014. On note au passage que le montant 2018 se singularise par un taux de réalisation de 51% contre 71% en 2017, par exemple. Il faut donc s'attendre à un effet rebond sur l'année 2019, dont on peut admettre en pratique que cette année ne durerait pas 12, mais 15 mois, c'est-à-dire jusqu'aux élections de mars 2020. Pour 2019, on trouve en conséquence un montant de projet très élevé, avec 3,2 millions, projets dont vous avez pris connaissance des principaux dans la liste qui suit et qui sont le fruit des propositions des commissions. Donc, vous avez pu donc prendre connaissance de la liste. Hein, je ne vais pas citer toutes ces informations-là. Alors, donc, comment sera financé ce programme d'investissement? Alors, on sait déjà que le FST ne pourra pas être sollicité. Pour le reste, d'autres subventions ont été demandées. Alors, 70 171 euros à l'agglo pour la piste cyclable de l'avenue d'Aquitaine et 92 800 euros à l'État pour le bâtiment sportif de Cancelles, soit un total de 162 971 euros. À ce montant, pourraient s'ajouter éventuellement d'autres subventions demandées à l'Europe, pour la maison de Garonne notamment. À ces diverses subventions, si toutefois elles étaient toutes notifiées, ce qui n'est pas acquis, s'ajouteront d'autres recettes d'investissement courantes, telles que l'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement, le FCTVA, la taxe d'aménagement notamment. L'emprunt étant exclu, le bouclage du financement fera appel, le cas échéant, à un prélèvement sur le fonds de roulement, appelé en variable d'ajustement. Comme en 2018, le financement des projets 2019 sera donc réalisé selon le schéma qui suit. Alors donc, sur ce schéma, qu'est-ce qu'on retrouve? On part bien sûr de la section de fonctionnement. La différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles dégage donc une épargne brute qu'il faut ensuite répartir. Alors on voit comment cette répartition se fait. En premier, il y a une affectation prioritaire qui permet de désendetter la commune. Hein, donc une partie de l'épargne brute est destinée à ça. Et si, après ça, il y a un reste, un reliquat, c'est ce qu'on appellera donc l'épargne nette. Et c'est cette épargne nette qui va venir autofinancer les projets 2019. Et on voit qu'au-dessous, d'autres recettes sont appelées également. Hein, le FCTVA, les subventions dont on a parlé tout à l'heure. Et si les ressources s'avèrent insuffisantes, s'il y a un manque de ressources, on voit bien que le fonds de roulement, qui est tout à fait en bas, peut venir, bien sûr, combler le manque de ressources. Voilà. Voilà donc, monsieur le maire, de quoi alimenter le débat.
Merci, Jean-Claude. Merci pour cette présentation très complète de tous les paramètres, on dira, de construction d'un budget. Donc, on est au niveau du débat d'orientation budgétaire. C'est l'occasion de lever la tête un petit peu et de voir à la lumière de tous ces paramètres voilà, s'il y a des choses à bouger ou pas, et en tout cas de commenter tout ça. Je vous donne la parole, chers collègues. Peut-être une précision d'information. Je suis sorti à ce moment-là. Je ne sais pas si tu l'as dit. Par rapport à l'agglomération, Jean-Claude a expliqué ce que nous recevons comme ressources de l'agglomération. Et quand on parle de l'allocation de compensation et de la DSC, c'est-à-dire de la dotation de solidarité communautaire, tout ça, ça résulte de la suppression de la taxe professionnelle. C'est-à-dire qu'en 2000, avant 2000 plutôt, nous percevions directement la taxe professionnelle. Et nous continuons à percevoir, vous voyez, à travers ces deux dotations, ça correspond au montant de taxes professionnelles que nous avions perçu l'année avant, en 1999. Voilà, c'est figé, quoi, depuis. Autrement dit, les ressources économiques qui sont apparues depuis cette date-là, elles vont directement à l'agglomération et elles y restent. Elles ne sont pas redistribuées, puisque maintenant, c'est l'agglo. Alors, je précise bien que quand il y a des installations économiques supplémentaires, nous percevons en revanche le foncier bâti, ce qui n'est pas neutre, je n'oublie pas. Hein. Mais la fiscalité purement économique, qui était la taxe professionnelle, voilà, c'est figé et vous le retrouvez au niveau 99 dans l'allocation de compensation et dans la DSC. Puis il y a le FST qui est un fonds de soutien territorial pour telle ou telle opération porté par les communes et selon un régime qui a été défini. Et Jean-Claude vous a rappelé que nous avions épuisé notre droit de tirage et que pour 2019, nous ne pouvions pas compter sur un fonds sur le FST. Alors, simplement, pour avoir une idée, aujourd'hui, la fiscalité qui est prélevée par l'agglomération à des titres divers sur la commune de Boé, ça représente, je parle sous contrôle de Muriel, qui écoute, on est à près de 6 millions. On est à près de 6 millions, c'est-à-dire la CVAE, toutes les taxes économiques prélevées par l'agglo, plus le versement de transport versé par les entreprises, plus la TOM, etc., etc. Donc il y a 6 millions à peu près de prélevés en fiscalité, de produits fiscaux prélevés sur la commune de Boué. Voilà. Et nous recevons, en compensation, nous recevons 1,8 million à peu près. Si vous additionnez dans une année normale la dotation, l'AC plus la DSC plus le FST, en moyenne, ça vous fait 1,8 million. Donc vous voyez que l'agglo, mais c'est normal. L'agglo, elle assure aussi d'autres services et tout. Mais il y a une part redistribution. C'est évident que Agen, Boué, Le Passage, Bonencontre sont des communes qui provoquent un produit fiscal pour la communauté qui est supérieur au retour qui en est fait. Mais dans le retour, quand je vous parle du retour correspondant à l'allocation de compensation à la DSC ou FST, il faudrait que j'ajoute aussi ce que fait l'agglomération sur des équipements ou des voiries communautaires. L'agglomération, elle intervient aujourd'hui sur la digue. C'est à l'exception des 160 000 que nous versons pour la petite variante que nous avons retenue, il y a 3 millions que l'agglomération paye. Quand l'agglomération a refait la zone industrielle de Boué pour à peu près 2 millions, c'est l'agglomération qui l'a pris en charge. Quand elle va faire l'an prochain l'avenue d'Aquitaine, c'est l'agglomération, à l'exception de la piste cyclable, c'est l'agglomération qui le prend en charge, donc il faudrait l'ajouter aussi. Mais bon, le rapport, en tout cas, c'est certain, il y a un produit fiscal prélevé sur la commune, largement supérieur, malgré tout, à ce retour. Mais voilà, il faut le savoir, pour information, c'est ça, la solidarité communautaire. Moi, je me permets parfois de le rappeler avec précaution. Il ne s'agit pas de dire aux collègues des petites communes et tout ça, vous vivez à nos crochets, quoi. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est vrai que la solidarité, elle s'exerce parce qu'il y a des communes qui, notamment sur le plan économique, sont plus productives que d'autres. Ça fait partie de la solidarité communautaire que, pour le coup, nous pratiquons depuis 1965, mine de rien, quoi. Non, mais je le dis parfois aux collègues qui disent « Ah oui, mais c'est commune riche, etc., etc. » Commune riche, mais qui contribue à la solidarité. Alors, c'est vrai que nous avons des retours que d'autres n'ont pas. Quand je parle des installations économiques, le foncier bâti, on le perçoit. Et voilà, et ça permet de faire des choses que nous ne ferions pas si nous n'avions pas ça. Il n'y a pas de secret, hein. Mais voilà. Donc, pour situer un petit peu les choses. Des questions, peut-être, sur tel ou tel chapitre de cela. Oui, Cyriac. Cyriac Cordronneau.
On a eu une discussion la dernière fois par rapport aux médecins qui risquent de partir. Donc, on se posait plein de questions. Peu importe ce qui va en sortir de cette discussion. Mais est-ce que ça aurait été intéressant d'avoir une ligne budgétaire qu'on réalisera ou pas, hein, mais qu'elle a le mérite d'exister si jamais on venait à prendre une décision qui va dans le sens, parce que je pense quand même que c'est une décision qu'il faudra prendre assez rapidement si on ne veut pas perdre ce Touib
ou en gagner un autre. À ce propos, puisque la question avait été soulevée, je comptais vous donner une information en questions diverses, mais on pourra y revenir si vous le voulez. Donc j'écris au docteur Reissac, la lettre est prête, puisque je vous avais dit qu'à la suite de ma dernière rencontre avec lui, nous étions convenus qu'il m'adresserait un courrier pour que je vienne devant le conseil municipal présenter un petit peu les attentes et les intentions du docteur Reissac pour savoir ce que l'on fait. Donc j'ai fait un courrier au docteur Reissac pour lui dire, voilà, nous étions convenus que vous m'adresseriez ce courrier, je ne l'ai pas reçu, je reviens vers vous justement parce que je compte ouvrir devant le conseil municipal une discussion là-dessus. Je rappelle dans ce courrier que, d'abord, je le salue et je dis que la municipalité et les Boétiennes, d'une façon générale, sont heureux de voir qu'il prend la succession de son père. Donc, c'est une bonne chose. Et pour le reste, je lui redis que la proposition que j'avais faite de mettre à disposition un terrain et le parking à côté pour réaliser un ou plusieurs cabinets médicaux Et voilà, et là, on attend donc, qu'il nous précise ses attentes, et puis on en discutera, on verra ce que l'on fait, si on peut aller au-delà de la simple mise à disposition d'un terrain. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une implication, on avait déjà eu une discussion ici, et je pense que c'est le sentiment général. Il faut qu'il y ait un engagement du docteur Isaac et des médecins qui pourraient s'installer là. Mais on peut aussi envisager qu'on finance la réalisation d'un cabinet en attente d'un futur deuxième médecin, etc., etc. C'est toute la discussion que nous aurons là-dessus. Hein. Moi, je n'ai pas là-dessus. Mais je retiens l'observation de Cyriac, en effet, et il n'est pas trop tard pour le faire dans le budget. Effectivement, peut-être qu'il ne serait pas inopportun de mettre une somme qui, de toute façon, ça peut donner lieu après une décision modificative, hein, si nous décidions d'investir financièrement là-dedans. Mais effectivement, je crois qu'il faut avoir ça à l'esprit pour la construction du budget. On pourrait peut-être mettre une ligne de crédit là-dessus, en fonction d'ailleurs de la discussion que l'on aura assez rapidement. Hein. Moi, je voudrais qu'on puisse parler de ça assez rapidement. Voilà. Mais j'aimerais encore une fois, j'aimerais qu'on puisse ouvrir le débat après que le docteur nous aura dit ses intentions et ce qu'il attend, quoi. Bon, voilà, hein, et puis on décidera. Chantal.
Donc, je l'ai vu dernièrement.
Oui.
Et il m'a dit qu'il n'avait pas eu le temps de faire une lettre parce qu'il était vraiment débordé.
D'accord. Mais il ne le perd pas de vue, quoi.
Mais il ne le perd pas de vue. Il m'a dit qu'il vous écrirait, mais peut-être pas de suite.
D'accord.
Voilà, parce qu'il est pris.
Ok. Henri Jacquin.
C'est heureux qu'il soit débordé avec la clientèle qu'il a.
Oui, c'est vrai. Il nous avait dit ça parce que ce n'était pas du tout informatisé. Hein. Son père n'avait pas du tout informatisé, semble-t-il. Donc, il s'est collé à ce travail et ça doit être compliqué. Oui, oui. Oui, bon. Bien, d'autres questions sur l'ADM, les amis ? Sur le DOB, pardon. Sur le DOB. Alors, je vais parler vraiment à la louche, il y en a plus du double, quoi. En 2000, je pense que nous avons doublé, mais je n'ai pas les chiffres précis pour le dire, mais je crois que nous étions à peu près à ça. Oui, je pense que aujourd'hui, si nous avions la taxe professionnelle dans les conditions de 2000, pouf, nous aurions deux à trois fois le produit fiscal là, que nous percevons, ça c'est sûr. Mais et c'est vrai qu'il y a des communes qui ont attendu le dernier moment pour passer. Toutes sont maintenant dans l'intercommunalité, c'est devenu obligatoire, mais celles qui ont attendu le plus longtemps ont engrangé en effet des ressources. Voilà.
Ah,
ils sont arrivés quand même en 2000, combien 13, hein. Très tard, oui. D'autres questions sur le DOB. Alors sur l'endettement, j'y reviens pas. Bon, vous le savez, c'est vrai que c'était un choix et nous l'avons fait ce choix parce qu'on pouvait le faire aussi. Attendez, hein, il suffit pas de décider qu'on se désendette, etc. Tout en continuant. Voilà, on le pouvait, mais on l'a fait. Et je crois qu'on ne le regrette pas. Si on voulait absolument, vous voyez, faire du résultat, de la performance, ça n'a pas lieu d'être comme ça, mais on pourrait décider, dans ce budget-là qui arrive, on pourrait décider de rembourser notre dette. Vous voyez bien, ça correspond à la moitié de notre épargne brute, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait rembourser tout ce qui nous reste d'emprunt à rembourser et malgré tout garder 1,5 million d'investissements, par exemple. Hein, ce serait de cet ordre-là. Bon, c'est pas le but, encore une fois, mais nous sommes pratiquement à zéro d'endettement. Donc, je le dis, c'est une situation qui permet d'envisager l'avenir avec sérénité. Mais même si je pense, moi, que pour l'avenir, il n'est pas interdit, puisqu'on parle de débat d'orientation budgétaire, de se projeter aussi à plus long terme, moi, je crois qu'à l'avenir, je peux me tromper. Je ne pense pas qu'une collectivité comme la nôtre, qui a fait les équipements qu'il y avait à faire, il y en aura toujours d'autres à faire, c'est sûr, mais tant sur la voirie que sur les équipements. Je pense que le plus gros de ce qui devait être fait a été fait. Et je pense que ça sera plutôt à l'avenir d'assumer les dépenses de fonctionnement induites par ces nouveaux équipements et tout ça. Et ça sera au niveau qualitatif et en particulier au niveau de toute la transition écologique et tout ça. Moi, j'engage vraiment notre commune à réfléchir à ça et à mettre le paquet là-dessus parce que c'est ça qu'il faudra faire. Évidemment qu'il faudra s'interdire, vous le voyez bien, quoi, s'interdire de compter sur le levier fiscal. Il n'y a pas besoin. Dans une commune comme la nôtre, on doit pouvoir sereinement envisager, sauf s'il y avait des catastrophes, les prochaines 6 années sans évidemment toucher à la fiscalité. Quoi. Aujourd'hui, vous savez, on était dans un contexte il y a encore 15 ans, peut-être 10 ans, 20 ans, tout ça, où boum, les impôts, globalement, les impôts locaux, ils augmentaient, voilà, ça augmentait tous les... Les communes qui mettaient un coup de 3% tous les ans, tout ça. Bon, bref, c'est interdit aujourd'hui. Moi, je crois qu'une des leçons qu'on doit retenir du contexte actuel, c'est que, je l'ai dit l'autre jour, hein, et certains peuvent dire, mais c'est surprenant dans la bouche de quelqu'un qui est très branché service public, et je le suis, et je l'assume. Mais je dis que nous avons aujourd'hui une dépense publique dans notre pays, qu'il faut absolument contrôler et maîtriser, et il faut se réinterroger. Moi, je suis pour le service public essentiel, celui qui doit être fait, l'enseignement, la sécurité, la santé, etc., etc. Il faut recentrer les choses, et il faut, et non, mais il faut. Moi, je constate plein de petits phénomènes qui me disent que. On a le derrière entre deux chaises, si je peux dire, alors que nous avons fait le choix, il y a 40 ans, de retenir une organisation décentralisée de notre République. Nous sommes en organisation décentralisée parce qu'on a donné des compétences aux régions, aux départements, aux intercommunalités, etc., etc. Et malgré tout, je crois que l'État a conservé trop de services qui doublonnent avec... Alors, il faut faire le choix. Moi, je dis, soit on recentralise, soit on prend acte de la décentralisation et on supprime certains services d'État. Et voilà, quoi. Mais on ne peut pas rester dans ce truc-là. On a une dépense publique. Et en revanche, les services publics que l'on doit assumer, il faut les assumer pleinement, en y affectant les moyens dont on a besoin, sur la santé, sur l'enseignement, sur la sécurité, etc. Mais pas entretenir, encore une fois, je ne fais pas une obsession là-dessus, mais moi, je le vois au quotidien. Je l'ai vu avec le plan local d'urbanisme. Je vois bien qu'il y a dans les services d'État des personnes qui doublent le travail. Quand on dit l'urbanisme maintenant, c'est l'intercommunalité, c'est l'agglomération, eh bien, il ne faut plus qu'il y ait de services d'urbanisme dans les services de l'État. Simplement un service de contrôle de légalité pour dire si l'agglomération d'Agen n'est pas conforme à la loi dans son plan local d'urbanisme, il faut aller devant le juge administratif. Ça, c'est normal. C'est à l'État de contrôler ça. Mais on n'a pas besoin d'avoir des services qui vous refont le plan local d'urbanisme derrière et qui vous disent ce que vous avez fait, ce n'est pas opportun, il faut le faire différemment, etc., etc. Donc je donne un petit exemple, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres sur la formation professionnelle et autres. Je pense qu'il y a des économies à faire et qu'on peut les faire en soulageant la pression fiscale et en mettant les moyens qu'il faut sur les autres services publics. Voilà, c'est un point de vue que je vous donne. Mais donc pour dire que dorénavant, on doit être dans un contexte de... stabilité. On est dans des taux de prélèvement obligatoire qui sont les champions d'Europe et peut-être du monde. Il faut vraiment se poser la question. Et vous voyez, c'est pas un libéral à tout craint qui vous dit ça, mais voilà, je crois qu'il faut faire comme ça. On déborde un peu, mais quoique, on est dans les débats financiers là-dessus. Ça vous laisse sans bois tout ça? Non. Bon. Monsieur l'adjoint, il y a des choses à rajouter ou pas?
Peut-être sur la dette dont tu parlais tout à l'heure. Fin 2019, le capital restant dû s'élèverait à 525 000 euros et des poussières. Je rappelle que simplement en 2013 et 2014, on a remboursé par anticipation 1 million d'euros, près d'un million d'euros. Donc on serait tout à fait en capacité de supprimer la totalité de cette dette.
Alors les taux, justement, on pourrait...
Les taux, on pourrait s'interroger, vous les avez, hein, je crois qu'on les a mis.
Les taux, là, mais...
On est à 3 et quelques, etc. Mais on a regardé, voir si... Parce que quand on veut renégocier, réaménager ces emprunts, il y a des pénalités, évidemment, là, les banques, et ça ne valait pas le coup hein, de passer. Parce qu'aujourd'hui, on est plutôt à 2% ou 1,5-2% qu'à 3 et quelques. Mais bon, voilà.
Donc, en 2013-2014, les emprunts qu'on a remboursés par anticipation, ce sont ceux sur lesquels on n'avait pas de pénalité. Voilà. Et pour le reste, on laisse courir. C'était pas intéressant.
Ouais. Voilà. Bien. Ben écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous propose la formule consacrée, Monsieur Géraud. C'est quoi ? C'est de prendre acte de la que nous avons tenu notre débat, c'est ça ? Comment ça se dit exactement ? On y va. Je propose d'acter que le rapport sur les orientations budgétaires 2019, les engagements pluriannuels ainsi que la structure et la gestion de la dette a été présenté et débattu en conseil municipal. Voilà. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions sur cette prise d'acte, on va dire ? Bien. Voilà. C'est reconnu à l'unanimité. Je vous remercie.